Les colloques du Collège de France.
Donc, bonjour à tous, et aussi à ceux qui regardent les vidéos, hein, qu'on oublie toujours, mais ils sont nombreux. Je voudrais, j'ai changé un peu mon titre. Il y avait marqué « Enseigner l'algorithmique, les algorithmes en mode débranché pour mieux les comprendre ». Mais en fait, le système est beaucoup plus général que ça, c'est enseigner l'informatique. Les algorithmes, c'est un bout de l'informatique, comme on va le voir, très important bien sûr, mais on peut aussi enseigner beaucoup plus de choses en mode débranché. Et je vais expliquer pourquoi. Alors, d'abord, il faut comprendre un petit peu ce que c'est l'informatique. Ça, c'est quelque chose que j'ai présenté dès ma première leçon inaugurale ici. C'est un changement mental fondamental. Et ça, c'est pas encore tout à fait compris dans notre pays, mais ça vient. Avant, il y avait trois sujets, mettons au 19e ou 20e, il y avait trois sujets d'études, de la physique, de beaucoup de choses, de la biologie, matière, énergie, onde. Et sont arrivés, en tant qu'objet scientifique, ils existaient avant, l'information et l'algorithme. Et ça, c'est complètement différent. C'est pas du tout de la même nature. L'information, bon, ça existe dans la nature, mais les algorithmes, c'est vraiment une création humaine, ce qui n'est pas le cas pour l'énergie, la matière et les ondes. Et information et algorithme, c'est très très différent de matière, énergie, onde. Même s'il faut de la matière, de l'énergie et de l'onde pour faire de l'informatique, c'est indifférent. Et ça, c'est très important. On ne dépend pas de ça. Alors, d'où ça vient? Eh bien, ça, c'est très important. Ça vient de Al-Khwarizmi, qui a donné son nom à algorithme, un mot qui était connu en France en 1230. Donc, quand on dit que c'est une nouvelle science, c'est assez curieux. Il n'y avait pas encore la physique à cette époque-là. Il a introduit des chiffres arabes. Alors, pour la petite histoire, j'avais un étudiant syrien, qu'à un moment, je lui ai parlé de chiffres arabes. Il m'a dit, ben, c'est quoi ça? Et je lui ai dit, ben, les 0,9. Il a éclaté de rire. Il dit, mais moi, je suis arabe, nous, on appelle ça les chiffres indiens. Hein. Et voilà. C'est lui qui a inventé l'algorithme de multiplication que nous utilisons tous. Il a aussi résolu l'équation du second degré et il a aussi créé l'algèbre. Et qui le sait en France? Eh bien, je crois pas grand monde, y compris chez les professeurs. Peut-être parce qu'il n'était pas français ou je ne sais pas quoi, pas européen, mais c'est très peu connu. Bon, donc c'est très ancien l'algorithmique. Hein, et je suis en train d'éditer un livre qui va apparaître chez Odile Jacob sur les algorithmes au Moyen-Âge. Ensuite, il y a eu Alan Turing et Alan Dutcher, que j'ai pas marqué, qui est moins connu, mais tout aussi important, qui a fait la théorie de la calculabilité. Et surtout, il a compris que l'informatique ne demandait qu'une machine universelle. Ça, c'est très important. Il n'y a qu'une machine en informatique. Il n'y en a qu'une. Il n'y a pas de différence entre le programmateur de la machine à laver, le supercalculateur de la météo. C'est la même machine. Donc ça, c'est très important. Ça n'existe pas du tout en physique. Hein. Voilà. Alors, les piliers de l'informatique, il y en a quatre. Il y a l'information. Je ne vais pas tellement en parler aujourd'hui, mais on en a beaucoup entendu parler hier avec l'IA, qui glorifie vraiment l'information. Les algorithmes, les programmes et les machines. La différence algorithme-programme est considérable. Un algorithme, c'est un objet de nature humaine, je dis, scientifique, et un programme, c'est ce qu'il faut pour qu'une machine exécute l'algorithme. Et le passage de l'un à l'autre n'est absolument pas trivial. Et ensuite, il y a les machines. Et puis, ça parle à nous et aux objets. Et puis, les algorithmes sont centraux parce que toutes les machines sont fabriquées par les algorithmes. On dit maintenant, un circuit peut avoir 100 milliards de transistors. Ils sont évidemment pas fabriqués par des hommes, dessinés par des hommes. Hein. Conçus par des hommes, oui, mais après, avec des algorithmes. Et surtout, l'informatique, c'est un très grand jeu de construction. Ça existe pas. Ça existe dans la nature, ça existe dans la biologie, mais c'est faut aller chercher quand même, tandis que là, nous, on la fabrique, c'est un jeu de construction. Et ça, pour les enfants, c'est très important. Ils adorent les jeux de construction. Les adultes aussi, d'ailleurs, dès qu'ils ont un enfant, ils se dépêchent de jouer avec. Alors, puis il y a les bugs, ça j'en parlerai aussi pas mal, parce que c'est vrai, consubstantiel à l'informatique. Alors, un avertissement, dans l'enseignement de l'informatique, très souvent, les gens disent, il faut apprendre à programmer tout de suite. Ben, apprendre à programmer, c'est bien, mais il faut pas faire que ça. Pourquoi? Parce que on peut se perdre extrêmement fatigant dans les détails. La programmation demande pas mal de détails, même s'il y a deux langages très utilisés dans l'enseignement. Scratch, qui est très bien fait pour les enfants, pour les adultes aussi d'ailleurs, qui est parallèle, ça c'est vraiment important, j'en parlerai après. Mais ça commande du boulot, et puis les petits, ils n'y arrivent pas très bien, quoi. Je sais parce que j'enseigne personnellement dans des classes de CP, par exemple, Et l'institutrice voulait essayer Scratch. Je lui ai dit, on peut essayer, mais tu vas voir, ça ne va pas marcher. Et c'est vrai, c'est trop long, c'est trop lent. Et voilà. Donc, il faut attendre un petit peu. Après, c'est très bien. Python, c'est un langage extrêmement à la mode, qui est plutôt bien fait, mais qui n'a absolument aucune protection contre les erreurs. Et donc ça, c'est pas terrible, parce que les erreurs, vous allez voir que c'est la loi. Alors, le débrancher, c'est ne pas utiliser d'ordinateur. Et commencer comme ça, je pense, c'est très bien. Et équilibrer comme ça aussi. Et pas seulement pour les enfants. Pour les adultes, ça marche très bien aussi. OK ? D'ailleurs, les adultes français sont au niveau des enfants de CM1, de CE1, au niveau de l'informatique en général. Alors, c'est quelque chose, moi je l'ai inventé tout seul, comme beaucoup d'autres gens, mais ça a été inventé en mieux et théorisé à l'époque en Nouvelle-Zélande, et dans les années 90-2000. Et donc, vous avez un site CS Unplugged, Computer Science Unplugged, où il y a énormément de ressources. Il y a d'autres sites où il y a des ressources très utiles. La même chose en français, là. Et donc, Informatique sans ordinateur de l'Académie de Lyon, dont on voit que la présentation est peut-être pas aussi attirante qu'elle devrait, mais il y a pas mal de choses dedans. Et puis, il y a ainsi deux sites en France, un qui s'appelle Pixies à l'INRIA, qui a été poussé par Thierry Véville, qui a fait un travail énorme sur le sujet, que je salue s'il regarde. Et puis, Classcode, donc de la main à la patte, mais qui ne fait pas beaucoup de débranchés, mais qui, en fait, on propose aussi, et on parle, certainement. Bon, alors moi, personnellement, j'ai fait beaucoup de débranchés dans une école Montessori, dont je m'occupais, avec une classe de 6-9 ans, d'abord 9-12 ans, et ensuite j'ai été promu chez les 6-9, ce qui est quand même plus difficile. Et puis, je continue maintenant dans une école rurale avec des 6-9 ans en CP, 7 ans en CP, CPCE1, donc 6-8 plutôt. Et voilà. Alors, je vais vous montrer à quoi on peut jouer. Alors, c'est pas vraiment du jeu, hein. Donc, déjà, les nombres. Alors, ça, c'est juste le comptage binaire. Vous voyez, le comptage binaire, le binaire, ça a beaucoup d'avantages. La table de multiplication de 1 et de 0, elle n'est pas dure, hein. Tout vaut, il n'y a que 1 fois 1 qui vaut 1 et le reste ça vaut 0. C'est fini pour la table de multiplication. Donc ça aide bien, la table d'addition n'est pas compliquée non plus. Et là, on apprend avec les enfants, et ce n'est pas difficile pour eux, on apprend à fabriquer donc les nombres de 0 à 15. On peut commencer plus petit, bien sûr. De 0 à 15 avec des pions de Go. Noir vaut 0, blanc vaut 1. Et c'est la même chose qu'en décimale, sauf que c'est 0, 1. Et vous allez voir que ça a des propriétés très intéressantes qu'on ne voit pas du tout en décimale, ni dans aucune autre base. La base 2 est la seule base intéressante en informatique pour des tas de raisons que je ne vous expliquerai pas. Et par exemple, j'ai appris ici, j'ai soigneusement suivi le cours de José Sahel sur la vision, et j'ai appris que voir les choses verticales et horizontales, ce n'était pas du tout pareil dans le cerveau. Et effectivement, ce qu'on va faire, une petite... Ça fascine toujours les enfants, et les grands aussi, j'espère. On va tourner le dessin, juste. Hein, regardez. On tourne le dessin. On voit pas du tout la même chose. Hein. Par exemple, on voit absolument clairement des paquets se former. D'accord ? C'est évident. Hein, quand on sait compter, on comprend que ces paquets se forment. C'est pareil en décimal. Et puis, c'est très intéressant, parce qu'on peut jouer à beaucoup de jeux avec ça. Par exemple... Enlever tous les pions noirs qui sont à gauche et tous les pions blancs qui sont à droite du dernier de chaque côté. Et qu'est-ce que vous allez ? Eh bien, vous trouvez une structure très différente à l'œil, mais qui est aussi la structure de nombre. Hein, on voit simplement les changements de face, si je puis dire, à chaque nombre. Et dans cette structure sont cachés des objets géométriques très, très importants. Alors, regardez les pions noirs. Ben, ils s'organisent très naturellement, avec des bouts de bois, ça se fait très bien, ils s'organisent très naturellement comme ce qu'on appelle les arbres binaires. Et l'arbre binaire, il existe aussi chez les blancs, et c'est exactement le même, mais il est décalé d'un cran. Alors pour le voir, il n'y a qu'à faire les deux en même temps, et on voit ces deux arbres binaires. Donc il y a des structures géométriques dans les nombres, qui sont en général pas très enseignées, mais qui sont très profondes, en fait, et l'arbre binaire est un objet fondamental de l'informatique, qu'on utilise sans le savoir très souvent. Alors voilà, c'est une des structures de données fondamentales, parce que c'est la dichotomie. Entre autres, ça fait plein d'autres choses, mais c'est la dichotomie. La dichotomie, ça consiste à couper les problèmes en deux et les recouper en deux, etc. Alors des fois, il peut y avoir des partages, mais c'est plus compliqué. Mais c'est une structure qui existe absolument partout. Et alors, en mode débranché, on va dire, on va faire le premier algorithme. Là, c'était, on joue avec les nombres. Bon, les nombres et les algorithmes, c'est la même chose, hein. C'est vraiment complètement relié, les algorithmes et les nombres, ça va ensemble. Hein. Algvarismi, ils faisaient les deux. Hein. Donc, la recherche dans un dictionnaire, comment on fait ? Ben, si on est naïf, on scanne les pages là, jusqu'à trouver le bon endroit, c'est pas malin. On va chercher organisme dans le petit Robert. Donc, l'idée est très simple, on ouvre le dictionnaire au milieu. Pile au milieu, c'est optimal. Si vous ne l'ouvrez pas tout à fait au milieu, ça marche quand même, mais ça peut être un peu plus long. Vous l'ouvrez au milieu, et vous regardez, comme il est en ordre alphabétique, un dictionnaire pas alphabétique, vous laissez tomber, hein, mais s'il est en ordre alphabétique, il est soit droit, il est soit du côté droit, soit du côté gauche. C'est facile à savoir, c'est instantané. Bon, pas pour un petit, mais dès que vous êtes grand, mais ça marche aussi pour vous, ça. Et mettons, il est là. Donc, regardez, j'ai bien fait attention de mettre un signet au milieu, là. Et on l'ouvre, et on rouvre au milieu du côté choisi. Et on remet un signet. Bon, très bien, et on recommence, on continue, on regarde ici, il est de ce côté-là, donc dans le quart, le deuxième quart, si on veut, et eh ben on ouvre encore au milieu en remettant un signet, on voit les signets d'avant qui sont là, on continue, et puis là, on commence à avoir pas mal de signets, mais c'est complètement faisable encore, et puis on est là, et puis on déplie, puis là, coup de bol, on est arrivé à la bonne page. Alors, cet algorithme est absolument fondamental. Pourquoi ? Ben, regardez, vous avez 1786 pages dans mon petit Robert, et vous avez au maximum 11 coups pour trouver la bonne. Alors, essayez autrement, vous allez voir. Hein, ça ne va pas du tout être comme ça. Donc, c'est un algorithme qui s'explique avec des mots, c'est le cas de le dire, et qui est un des trucs les fondamentaux de l'informatique. Donc, débrancher, c'est ça, c'est connecter le réel de tous les jours avec les concepts de l'algorithmique et de l'informatique. Alors, on n'est pas encore tellement dans l'informatique. Alors là, on va passer à un truc qui est de l'algorithmique simple, mais de la programmation maintenant. Donc, vous avez ici un quadrillage, et vous allez inventer un langage de programmation qui vous permet de vous déplacer dedans. Bon, c'est un grand classique, hein. Ça se fait très bien en Scratch aussi. Voilà, il y a trois lettres dans le langage, T pour tout droit, D pour à droite et G pour à gauche. Donc c'est extrêmement simple. Si vous faites ce qui est marqué, scrupuleusement, comme un ordinateur, vous allez arriver au bon endroit. Alors, un truc très intéressant, c'est vous prenez un carrelage suffisamment grand, il y en a un dans l'école où je travaille, et vous dites aux enfants... Voilà, vous faites ça à deux, il y en a un qui lit la feuille et l'autre qui marche. Eh bien, je n'ai jamais vu un enfant arriver au bout. Jamais. Et regardez ce qui se passe. Si on fait une erreur, une seule lettre d'erreur, mettons ici, on a pris un D au lieu d'un T, on va n'importe où. Ça, c'est essentiel de comprendre ça en informatique. Si on faisait une autre erreur ailleurs... on irait dans un autre n'importe où. Et il y a beaucoup plus de n'importe où que d'endroits où on veut aller. Et les enfants, ils n'y arrivent pas. Ils ne sont pas contents. Alors après, on les dit, allez, on va faire un peu moins débranché, on va prendre un quadrillage, pareil que le jeu de go d'avant, ou un autre, et on va faire ça avec une petite souris qui a quatre flèches. Et les enfants programment la souris, ils sont très concentrés, ils mettent la souris, ils lancent la souris, et la souris va n'importe où. Et ils disent, la souris s'est trompée. Les adultes sont pareil. Hein. La souris s'est trompée. Je leur dis, non, c'est pas la souris qui s'est trompée. Et donc, ça met en lumière un phénomène extrêmement fondamental de l'informatique, sur lequel j'ai centré beaucoup de cours ici. C'est l'informatique, c'est très très sensible aux toutes petites erreurs. Alors, beaucoup moins l'IA d'ailleurs. Et voilà. Alors, c'est les bugs. Et l'informatique, ça n'est intéressant que quand ça marche. C'est très, très dangereux quand ça marche pas, souvent. Et malheureusement, les gens sont d'une tolérance vis-à-vis de ça. Dans les bagnoles, il y a tellement de trucs qui marchent pas. Je comprends pas. Il y a même pas de réglementation pour les voitures. Pour les avions, c'est pas vrai. Alors, d'où ça vient? Et ça, c'est très facile à expliquer aux enfants. Eh bien, ça vient de l'immense écart entre nous et Turing. C'est-à-dire, nous, là j'ai pris Kepler intuitif, lent et rigoureux autant qu'il peut, l'ordinateur totalement stupide, il ne faut jamais oublier ça, il n'existe aucune intelligence dans un circuit électronique, on peut en mettre par des programmes, mais c'est autre chose, c'est nous ça, extrêmement rapide et totalement exact, ne faisant jamais d'erreur, on peut dire que c'est vrai ça. Donc, c'est exactement les deux opposés les plus lointains possibles. Donc, l'informatique, c'est faire passer une idée de l'un à l'autre. Ça ne peut pas être facile. Et il faut rater pour comprendre, hein, mais c'est assez facile de rater, on prend vite l'habitude. Il y a des moyens, par exemple, Xavier Leroy vous explique comment on peut faire pour pas rater, moins rater, et j'ai essayé de faire ça aussi, mais voilà, c'est consubstantiel. Donc, c'est très important, parce que si on enseigne d'abord à programmer, ils vont pas tirer la leçon comme ça de ces erreurs, qui est une leçon implacable. On peut pas l'éviter, quoi, ça. Alors voilà, si on maîtrise pas, ça met des bugs partout, et c'est ça. Et donc, c'est très rigolo de voir les enfants, pour la première fois de leur vie, n'arriver absolument pas à faire un truc très simple. Ça les choque, hein. Alors, vous pouvez essayer vous-même avec un carrelage, vous allez voir si vous arrivez au bout, hein. Voilà. Donc, c'est très intéressant. Il n'y a pas que Kepler qui est dans le coup, hein. Alors, aussi, j'ai beaucoup enseigné dans une école Montessori, justement au moment où ailleurs se faisait aussi de l'unplugged, et là, il n'y avait pas d'ordinateur, mais il y a le matériel Montessori. Je ne sais pas qui a inventé ce matériel de maths, mais il est totalement prodigieux. Il n'y a aucune chance de ne pas comprendre. Il est fantastique. Alors, on va faire la multiplication. La multiplication, ça se fait avec une boîte de perles, là, des barres de perles de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, très simple, et puis un damier. Et les perles, maintenant, quand vous faites 3 fois 7, vous allez à la banque, vous prenez 3 barres de 7 perles ou 7 balles de 3 perles. Pour vérifier que c'est la même chose, vous faites 2 rectangles, vous en tournez un et vous regardez que les 2 rectangles sont pareils. C'est sensoriel, ça c'est très important. Surtout à ces âges-là. Alors voilà, on va faire une grande multiplication. Je ne vous conseille pas de faire ça tout de suite, hein. Donc 5637 par 4823. Alors vous voyez, dans le damier, il y a une case verte là, c'est les unités, là c'est les dizaines, là c'est les centaines, là c'est les milliers, etc. Donc les couleurs indiquent l'ordre grandeur. Très bien. Alors ce qu'on va faire, la première chose, c'est de remplir les cases. Alors voilà, on va remplir 3 fois 7. Alors je ne le fais pas avec des perles, hein, parce qu'à dessiner, je m'excuse, je ne fais pas. Donc on met 3 fois 7, après on met 3 fois 3, et dans la pédagogie Montessori, on explique à un enfant qu'il faut qu'il en mette partout dans l'ordre. Ah mais oui, mais alors l'informatique c'est plus comme ça, hein, c'est parallèle. On fait le maximum de choses en parallèle. Et là ça tombe bien, les cases sont indépendantes, donc on peut faire ça à plusieurs enfants. Donc ici, il y en a un qui va remplir là, un qui va remplir là, un autre qui là, et puis etc. On n'est pas du tout forcé de le faire dans l'ordre. L'ordre, c'est un résidu de algorithmie avec un seul doigt. Mais on n'est pas forcé d'avoir un doigt. Et en informatique, il y a longtemps qu'on n'a plus qu'un doigt. Voilà, on continue. Voilà, et là, c'est la première étape qui est finie. On a préparé la multiplication. Alors, il y a plein de façons de faire à partir de maintenant, mais je vais vous montrer une qui est très bête, mais qui fonctionne, bien sûr. On va tout ramener sur la première ligne. Comme ça, c'est des dizaines. Les dizaines, c'est les mêmes là et là. Donc, on va faire glisser. Ici, on va faire glisser le 7 vers le 3. Mais encore une fois, on peut le faire à plusieurs. Donc, on peut mettre 2 ou 3 enfants. Ah, c'est pas simple hein, pour les enfants, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place autour du damier, et ça, on va en reparler après. Donc, on va faire un algorithme parallèle, mais très simple, hein, qui va permettre de faire passer tout. Puis regardez, il y en a qui n'ont pas tout pris. Hein, et ils en ont laissé là, c'est pas très grave, il suffit de les ramener après. Ça ne change rien. Il est extrêmement tolérant, cet algorithme. Ça ne change absolument rien de le faire comme ça. Bon, très bien. Alors après, dans les ordinateurs, on est beaucoup plus malin, mais là, on va être obligé d'être un peu lent. On va propager les retenues. Donc 3 fois 7, 21, de droite à gauche, là, on n'est pas forcé de le faire comme ça. Il y a des algorithmes bien mieux, mais c'est comme ça. Et 1, et je retiens 2, après 5, et je retiens 2 pour 25, et puis après, on arrive au résultat. Ça prend du temps. Mais quand vous l'avez fait 3 fois, La multiplication, vous savez ce que c'est. Alors que sur un papier, on peut la faire beaucoup sans très bien comprendre ce que c'est. Alors la division, ça se fait aussi, mais là, je laisse tomber. C'est plus compliqué. Mais comme on a fait du parallélisme, on a mis en évidence des nouveaux dangers. Parce que quand les gamins s'approchent du truc et qu'ils sont trop, mettons s'ils sont trois, il y en a toujours deux devant et l'autre qui n'y arrive pas, ou etc., ou alors des fois ils s'en mêlent avec les autres, eh bien il y a deux dangers dans le parallélisme qui sont très importants, qu'on étudie d'abord en général très tard dans les cours informatiques, et en fait qui arrivent à peu près immédiatement dès qu'on fait des choses à plusieurs. Le premier, c'est l'interblocage, donc vous avez deux jumelles monozygotes, deux jumelles monozygotes parfaites, disait Laure. Et elles veulent chacun une règle et un crayon pour dessiner. Il y en a une qui a la règle et l'autre le crayon. Et puis, ben voilà, elles attendent chacune que l'autre lâche leur truc. Alors ça, dans les ordinateurs, c'est très gênant. Ça veut dire que le programme ne fait plus rien, mais qu'on ne sait pas pourquoi. Ça existe, ces choses-là. Ça s'appelle un deadlock. Par exemple, les deux robots Pathfinder et Spirit qui ont atterri sur Mars ont failli mourir à leur atterrissage de ça, tous les deux. Ça, c'est l'interblocage. Et puis, l'autre danger, c'est la famine. C'est qu'il y en a un qui n'arrive jamais à bosser. C'est-à-dire que Lise et Laure sont d'accord pour s'échanger le truc, mais la petite Manon qui est là, elle est trop petite. Et puis, Lise et Laure ne lui filent pas le crayon et elle ne travaille pas. Alors, en informatique, c'est sérieux. Quand l'ordinateur tourne, fait des choses, mais qu'il y a un morceau qui ne travaille pas, ce n'est pas facile à détecter et c'est un bug aussi très connu. Donc, on apprend des choses de la vraie vie hein, aussi. Alors, il n'y a pas que... Là, je parle d'informatique. Là, j'étais dans l'algorithmique, vraiment, mais je parle d'informatique, là, un peu plus. J'adore ce dessin de Gay-Luc. Gay-Luc a toujours la plume absolument incisive. Et il dit, en montrant tous les objets du XXe siècle qui sont là-dedans, le téléphone, l'album photo, le magnétophone et tout, tout ça, mon pote, ils ont réussi à le caser dans un smartphone, il doit y avoir un truc. Bah ouais, ce truc, c'est l'informatique. Et donc, avant le smartphone, je vous rappelle, est né en France. Hein, le premier smartphone a été créé à Paris par Jean-Marie Hulot, un Français. Vous tapez Hulot, H-U-L-O-T, sur le site du Collège de France, vous verrez son séminaire ici. Pourquoi un smartphone fait tout ça? Eh bien, c'est parce qu'on peut ramener énormément de choses à l'information. Et ça s'explique très bien aux enfants. Alors, on dit que le smartphone, c'est un couteau suisse, pas du tout, parce que le couteau suisse, c'est jamais bon, donc quoi que ça fasse, alors que le smartphone, c'est vraiment très bon. Voilà. Et puis, il faut jamais oublier que c'est pas l'ordinateur qui calcule, c'est les programmes qu'on lui a donnés, hein, donc c'est humain. Voilà. Alors, la photo numérique, c'est très facile à expliquer aux enfants. Et c'est très intéressant pour eux. D'abord, on prend une photo, et si on l'agrandit suffisamment, on voit des points, vous voyez, on voit des pixels colorés, là. Alors, à l'époque où je faisais ça, on les voyait déjà dans les télés. Maintenant, on ne les voit plus, mais on les voyait encore dans les télés, et les enfants disaient, ben ouais, quoi ? Ben, je sais bien pourquoi tu nous dis ça, on le sait. Donc, ça, c'est qu'on a réussi l'enseignement sans avoir fait d'effort. Et maintenant, c'est moins vrai, parce qu'ils ne voient plus les points. Avec une très bonne loupe, on les voit, mais c'est compliqué. Et voilà. Donc, on leur montre qu'une photo, ce n'est jamais que des petits points faits avec trois couleurs. Ah, ça c'est intéressant, parce que les couleurs, c'est des objets de la vie de tous les jours. Eh ben oui, mais on est en trois, donc on peut faire de la biologie, on peut expliquer comment marche l'œil, qui a aussi trois couleurs dedans. Sauf pour quelques filles qui en ont quatre, c'est autre chose. Donc on a des pixels colorés. Ah, mais alors ça veut dire aussi que quand on peut faire peut-être mieux que ça, et donc avec un petit logiciel, donc ça c'est pas débranché, mais c'est branché sur autre chose que sur un logiciel, eh ben on peut aller chercher les couleurs pour peindre dans une palette de crayons. Bon, ça c'est banal. On peut les chercher dans une roue colorimétrique. Ah, ça, c'est beaucoup plus intéressant. La roue colorimétrique, Goetz a travaillé énormément là-dessus, sur les couleurs, et c'est un objet assez extraordinaire. Bon, on peut passer des jours sur la roue colorimétrique. Ah, puis le plus intéressant, c'est qu'on peut fabriquer des couleurs avec des nombres. Une couleur, c'est trois nombres, rouge, vert, bleu. Alors ça, vous les lâchez sur ce programme-là, les gamins, alors surtout les filles, là, les filles, elles foncent sur l'ordi, je ne sais pas pourquoi, et elles fabriquent des couleurs. Elles peuvent passer des heures à fabriquer des couleurs, il faut les débrancher. Là. Et puis, quand on progresse un peu, par exemple chez les adultes, parce qu'ils disent, ah oui, ils disent, mais avec les peintures, c'est pas comme ça, c'est pas ces couleurs-là qu'on prend. Ah, je lui dis, ah, oui, parce que la peinture, c'est soustractif, alors que l'écran, c'est additif. Eh ben, mais t'inquiète pas, on fait aussi du soustractif avec un logiciel. Donc, les imprimantes, ça marche en CMJN. Hein, et ben voilà, vous pouvez refaire des couleurs comme fait l'imprimante. Et pour faire la même couleur, eh ben, c'est pas fastoche, hein. Donc, on est dans la vie de tous les jours, là. Hein, et l'imprimante, ils savent ce que c'est. Un écran, ils savent ce que c'est. Mais, on est dans l'informatique. Le son, c'est plus compliqué. Alors, je vous raconte la plus belle séance de ma vie, encore mieux que les leçons ici. J'étais à l'école Montessori, j'avais une groupe de 7, 6, 9 ans. Pas gros, hein. Et puis, je vous l'ai dit, ben, le téléphone fait tout, donc il enregistre aussi le son. Alors, comment on enregistre le son? Le son, c'est pas comme l'image, hein, c'est beaucoup moins intuitif. Donc, je commence mon cours dans le vague, hein, c'était vraiment expérimental, je leur dis, comment se déplace le son? Ah! Je sais pas ce qui sait répondre dans la salle, mais eux, ils savaient pas. Donc, ils réfléchissent, puis ils aiment pas réfléchir trop longtemps à cet âge-là. Hein. Donc, je m'attendais à ce que ça traîne un peu, je savais pas trop quoi faire. Et tout d'un coup, il y a un gamin de 7 ans qui me sort, c'était horrible cette journée, un gamin de 7 ans qui me sort la phrase suivante, le son, c'est pas comme la lumière, ça prend mieux les virages. Ça, je pense pas qu'un adulte puisse faire ça. Alors, je lui ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, parce que la classe d'à côté, par la couleur, on la voit pas, mais on l'entend. Attendez, j'étais censé être le prof, hein. Alors bon, je me ressaisis un peu, et on a quand même pris un miroir pour le mettre, et qu'on voyait aussi la classe, et que la lumière et le son, c'est pas si différent. Alors, c'est des ondes, mais alors expliquer déjà à un adulte ce que c'est qu'une onde, c'est un peu compliqué. Alors les enfants, j'ai pas quand même été beaucoup plus loin, mais bon, d'accord, mais je lui ai dit, mais oui, mais le miroir se sert pour le son, donc je restais concentré, je lui ai dit, mais oui, mais comment il se déplace? Et il y a un gamin de 6 ans, Raphaël, je me rappellerai toute ma vie, qui a sorti deux phares de ses yeux, tout le monde les a vus, comme dans Tex Avery, là, il a sorti deux phares de ses yeux, et il m'a sorti une phrase inoubliable, j'ai trouvé le son se déplace en dansant dans l'air. Alors ça, je pense que ça devrait être la définition officielle. Un adulte ne peut pas inventer ça, hein, c'est vrai. Et moi, j'étais un peu secoué, d'accord. Et j'ai trouvé que c'était très juste, et donc j'ai dit, mais t'as raison, mais comme on a déjà vu comment on pouvait filmer la danse, on n'a qu'à filmer la danse dans l'air du son, ce qui est exactement ce qu'on fait quand on enregistre. C'est une très belle image. Bon, après, techniquement, il y a une petite différence, mais ce n'est pas vrai, c'est la même chose. Bon, donc on sait enregistrer le son. Et là, le point final de la séance, ça a été instantané. Ils ont dit, c'est bon, on a compris, tu peux rentrer chez toi, reviens la semaine prochaine. C'est authentique, hein. C'est authentique. Comme quoi, l'enseignement, ça a vraiment du bon. Voilà. Alors, ce que moi, j'aimerais bien faire dans mon village, mais j'ai pas trouvé le local, j'ai tout ce qu'il faut, un musée du XXe siècle, je pense que ce serait vraiment important, de montrer des objets du dessin de Gay-Luc et d'expliquer aux enfants comment on faisait avant. Le XXe siècle, c'est de l'histoire lointaine sur ces choses-là. Et cette histoire lointaine mérite d'être enseignée au même titre que l'histoire des rois de France en 1230. Hein, il n'y a pas de problème. Et puis surtout, ça permet d'expliquer la différence de nature entre les objets d'avant et les objets d'après, c'est-à-dire aussi entre les parents et les enfants. Hein, les parents ont beaucoup de mal avec ça, à comprendre que leurs enfants ne seront jamais comme eux, ce qui est général dans toute l'histoire. Hein. Voilà. Alors, le débrancher, ça permet de réconcilier l'informatique et le monde physique, hein, pour les enfants et les adultes. Hein. La preuve, c'est que je pense que vous allez réfléchir à ce que j'ai dit, parce que ça marche très bien pour les adultes aussi. Et évidemment, faut pas faire que ça. Il faut aussi rentrer dans le vrai sujet. Il faut aussi aller voir un ordinateur pour voir à quel point c'est rétif. C'est-à-dire à quel point on se trompe avant de réussir. Parce que quand on enseigne la programmation, on explique aux gens que vas-y, tu vas y arriver. Ben, si c'était vrai, ça se saurait. Donc vas-y, prends ton temps, cherche bien, vérifie tout et tu vas y arriver. C'est pas la même phrase. Hein, c'est pas la même phrase. Donc, le problème de l'enseignement d'informatique, il y en a deux. Un, ça prend du temps. Et deux, il y en a pas. Ou très peu. La France a refusé totalement. Et par exemple, j'ai coécrit des programmes du bac et de seconde. d'informatique et l'éducation nationale a totalement refusé que ça s'appelle informatique. Donc en seconde, ça s'appelle sciences numériques et technologies. C'est pas facile de voir le rapport. Et en première, ça s'appelle numérique et sciences informatiques au pluriel. Et c'est la première fois que j'ai appris qu'il y en avait plusieurs. Voilà. Y a-t-il une évasion des résultats, m'a demandé Stanislas Dehaene. Il a tout à fait raison. Y a-t-il une évasion des résultats? Parce que moi, je vous ai parlé d'une expérience artisanale. Je ne vais pas me mettre à en déduire que tout l'enseignement doit faire ça, etc. Hein. Mais la réponse est oui. Il y a un papier que j'ai pas encore potassé suffisamment, puisqu'il m'a posé la question hier, Stanislas. Et est-ce qu'il y a des évaluations de l'enseignement Montessori? Il y en a aussi. Est-ce que c'est facile de dire c'est mieux, c'est pas bien mieux et tout? Non, c'est jamais très facile. Et là, ça a l'air de très très bien marcher pour compléter, en complément ou en initiation. Mais je pense que, vous savez, j'ai fait beaucoup de cours ici. Eh ben, j'étais tout fait comme ça, j'avais pas d'ordinateur et j'ai fait ce programme et personne. Donc, cette expérience Montessori a totalement dominé mon cours, mon enseignement ici. Voilà.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.